soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie.
Pour écouter Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini et Tutti Quanti, c'est Tutti Quanti. Pour écouter des adagios, des allegro, des moderato et Tutti Quanti, c'est Tutti Quanti, votre magazine consacré à la musique classique de Radio MDM. Un magazine préparé par Alain Bont avec à la technique notre fidèle Arnaud. Nous continuons à feuilleter un abécédaire de la musique. Nous sommes à la lettre D, et D comme didgeridoo. Vous allez me dire, mais le didgeridoo n'est pas un instrument classique. Et vous aurez raison, le didgeridoo n'est pas un instrument classique. C'est un instrument extrêmement ancien. On y remonte probablement à l'âge de pierre, donc c'est un des plus vieux instruments, 20 000 ans. On sait qu'on a retrouvé une peinture rupestre représentant un joueur de didgeridoo, et cette peinture a été analysée au carbone 14, donc aucun doute, il y a 20 000 ans, ça existait. Alors à quoi ça ressemble un didgeridoo? C'est un petit peu comme le cor des Alpes. D'ailleurs, le didgeridoo est un instrument qui fait partie de la famille des cuivres, même s'il n'est absolument pas en cuivre. Il est en bois. Traditionnellement, il est en eucalyptus. Il y a des hasards de la nature. Il y a les termites qui adorent la sève de l'eucalyptus, qui mangent l'intérieur de l'eucalyptus. Et donc, il restait pour les aborigènes, ce tronc entièrement creusé dans lequel on pouvait souffler. Et en soufflant dans un tronc, la vibration des lèvres se transforme en son et ça fait un son. Alors la taille des didgeridoos peut être assez étonnante. Hein. Les plus courts font un mètre, mais il y en a qui peuvent faire jusqu'à 1,80 m. Le diamètre, pareil, c'est très variable. Ça dépend de la taille des troncs. Ça peut être 5 cm jusqu'à 30 cm. Une des particularités du didgeridoo, c'est que ceux qui en jouent pratiquent ce qu'on appelle la respiration circulaire. Qu'est-ce que c'est que la respiration circulaire? C'est un souffle qui n'arrête pas. Pendant qu'on souffle avec l'air qu'on a encore dans la bouche, en même temps, on inspire avec le nez, et donc on arrive à créer ce mouvement circulaire avec un souffle qui n'arrête jamais. Et donc ça crée une sorte de bourdon sur lequel les musiciens vont rajouter des sons, soit en variant la puissance du souffle, ça fera des différences de hauteur, soit parfois même en rajoutant des sons harmoniques, un petit peu sur la même technique que le chant diphonique, soit en chantant en même temps qu'il souffle. On va écouter un exemple de ce didgeridoo tout à fait traditionnel avec une pièce interprétée par Lewis Burns. Lewis Burns qui est un petit peu l'ambassadeur de cette tradition du didgeridoo.
I'm
J'entends déjà poindre vos critiques, mais le didgeridoo n'est pas du tout un instrument de musique classique. Que vient-il faire dans Tutti Quanti ? Vous auriez presque raison, si des compositeurs du XXe siècle, et notamment des compositeurs australiens, n'avaient pas essayé d'insérer un petit peu le didgeridoo dans leurs réflexions. C'est le cas, par exemple, de Peter Yoshua Sculthorpe, qui est un compositeur donc australien, qui est né en 1929 et qui est mort en 2014. C'est quelqu'un qui a eu un apprentissage tout à fait classique de la musique, mais qui très vite s'est intéressé à d'autres musiques. Il a d'abord été attiré par la tradition asiatique, et puis à partir des années 70, il s'est intéressé à une culture qui était la sienne, la culture aborigène. Et il a essayé donc de mélanger cette culture aborigène avec la tradition occidentale. Sculthorpe est un compositeur très intéressant, très engagé politiquement. Sa recherche d'un mélange des cultures avec les cultures locales va dans le sens d'une démarche qui est très, très politique. Par exemple, il a écrit un quatuor à cordes qui était inspiré par des lettres écrites par des demandeurs d'asile dans les centres de rétention australiens. Ou en 2004, il a composé un requiem qui est une condamnation des bombardements de l'Irak par les États-Unis. On va donc écouter un concerto pour didgeridoo et orchestre. Alors, on ne va pas l'écouter intégralement, l'œuvre est un petit peu longue, donc on va écouter un petit extrait de ce concerto. Vous allez entendre que ce que retient Sculthorpe de la culture aborigène, c'est le côté un petit peu chamanique, le côté un peu transe, qu'il mélange donc avec les techniques de musique répétitive occidentale. Voici donc le concerto pour didgeridoo et orchestre de Peter Sculthorpe. Au didgeridoo, c'est quelqu'un qui s'est un peu spécialisé dans ce genre des mélanges de musique traditionnelle et de musique savante. Au didgeridoo, William Parton. après Peter Sculthorpe, on va enchaîner avec une autre compositrice, également australienne, Lisa Lim. Alors, comme son nom vous l'indique peut-être, elle est d'origine chinoise, mais elle s'est installée très très jeune en Australie. Et Lisa Lim a vraiment toujours essayé de travailler sur cette notion de transculturalisme, d'essayer de casser un petit peu les frontières entre les genres et les esthétiques musicales. Elle a, elle aussi, composé un concerto pour didgeridoo. Alors, c'est pas tout à fait, j'exagère un peu, c'est pas tout à fait un concerto pour didgeridoo, c'est un concerto pour didgeridoo et flûte. Il y a deux instruments solistes. Et vous allez entendre que la tradition aborigène est extrêmement présente dès le début, où le soliste au didgeridoo commence lui-même par chanter quelque chose qui est très, très incantatoire. Et ensuite, on revient plus à un langage beaucoup plus contemporain, qui est celui de Lisa Lim. On écoute donc le début de ce concerto qui s'appelle The Compass. Il est interprété évidemment par William Barton, qui est vraiment le joueur de didgeridoo qui joue de la musique classique. À la flûte, c'est Karin Leven, l'orchestre du Bayern Rundfunk que dirige Christophe Poppen.
Ja na 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 ya we do gaini ya wo ho 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 ja na 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 wo ho ja na 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 Oh,
Donc le début de The Compass, un concerto pour didgeridoo et flûte de Lisa Lim. Alors je voudrais vous passer un autre extrait de ce concerto. Encore une fois, la pièce là aussi est assez longue et d'un seul tenant, donc c'est difficile, on peut pas écouter un mouvement séparément. Mais on va quand même en écouter un autre extrait qui se situe à peu près au milieu de la pièce, où la compositrice Lisa Lim exploite vraiment toutes les richesses du dialogue entre le didgeridoo et la flûte. Deux instruments qui, quelque part, ont des points communs, deux instruments à vent, où la place de l'air est extrêmement présente, et on entend parfaitement bien dans ce petit extrait, donc toujours ce concerto de Lisa Lim, The Compass. C'était donc un concerto pour didgeridoo et flûte de Lisa Lim, The Compass. Toujours à la lettre D de notre abécédaire, le mot dissonance. On revient évidemment à quelque chose de plus occidental et de plus classique. Quand je vous dis dissonance, peut-être que vous vous dites « Oh, on va encore écouter des choses pénibles, compliquées, désagréables. » Ah, mais soyez réaliste, est-ce que la musique serait agréable s'il n'y avait jamais de dissonance ? Tout le plaisir de la musique vient justement de la résolution de ces dissonances qui créent des tensions, qui créent des doutes chez l'auditeur et qui trouvent une solution dans quelque chose de plus harmonieux ensuite. La dissonance a été particulièrement exploitée au XVIIe siècle, et je pense vraiment à un compositeur un peu particulier qui s'appelle Gesualdo. Alors Gesualdo, il est rentré dans l'histoire de la musique pour de très mauvaises raisons. Il a eu le mauvais goût d'assassiner sa femme et l'amant de sa femme. Il était un peu infidèle. Alors, ça excuse pas, mais ça explique. Et bon, en tout cas, Gesualdo a vécu une vie quand même un peu compliquée. Après cet assassinat, il s'est exilé. Comme il était noble, il n'a pas été trop inquiété. Mais voilà, donc c'est surtout ça qu'on retient de lui. Quelqu'un d'évidence un petit peu torturé. Et ça s'entend terriblement dans sa musique, qui fait une part très intéressante et très belle à cette notion de dissonance. Gesualdo a écrit des madrigaux. Vous savez, le madrigal, c'est ce poème mis en musique où on exprime quasiment les mots les uns après les autres. Donc dès qu'il y a le mot douleur, par exemple, eh ben, c'est une bonne occasion pour mettre une petite dissonance qui frotte. Là, on va écouter un madrigal qui s'appelle Dolcissimo Sospiro, et ce soupir doux va évidemment être très illustré en musique. On écoute ce madrigal interprété par Paul Agnew, qui dirige les Arts Florissants.
Esci da quella bocca.
Après le XVIIe siècle, on va avancer un petit peu dans le temps pour arriver à la fin du XVIIIe siècle avec Joseph Haydn. Alors là, on ne pense pas spontanément à lui pour l'aspect dissonant, s'il n'empêche que dans une de ses pièces les plus importantes, un oratorio qui s'appelle « La création », qui décrit tout simplement la création du monde. La création du monde, elle commence par une sorte de chaos originel, et pour présenter ce chaos originel, on peut se permettre des petites dissonances. Voici donc la première partie de l'oratorio « La création » de Haydn, dans la version que dirige Nikolaus Harnoncourt. On entend Haydn, évidemment Mozart n'est jamais très loin. Vous savez que les deux compositeurs avaient une immense estime l'un pour l'autre, qu'ils se connaissaient bien, ils s'appréciaient beaucoup, ils étaient parfaitement conscients tous les deux qu'ils étaient probablement les plus grands génies de leur temps, en musique en tout cas. Et donc Mozart a dédié certains de ses quatuors à cordes à Joseph Haydn. Ce sont des quatuors qu'il a écrits entre 1782 et 1785. Et le dernier de ces quatuors dédiés à Haydn, celui qui porte le numéro de Köchel 465, a un surnom. Il s'appelle le quatuor Les Dissonances. Pourquoi il s'appelle Les Dissonances ? Tout simplement parce que son introduction fait là aussi la part belle à cette dissonance très étrange, un petit peu inquiétante, dissonance qui bien sûr trouve bien vite leur résolution. On écoute donc ce 19e quatuor de Mozart, il est en do majeur. Il y a donc une introduction adagio suivie d'un allegro et c'est le quatuor Emerson qui l'interprète.
Thank you. Thank you.
après le XVIIe siècle avec Gesualdo, après la fin du XVIIIe avec Haydn et Mozart, on va arriver au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle avec Wagner. Wagner est probablement l'un des compositeurs qui est allé le plus loin dans cette recherche de dissonance, en tout cas d'accord parfois un tout petit peu étrange. C'est notamment le cas dans son opéra Tristan et Isolde, où le premier accord que l'on entend est un accord tout à fait étonnant, entre guillemets inclassable. Il y a des essais entiers qui ont été rédigés par des musicologues sur ce fameux accord de Tristan. Comment on peut essayer de l'expliquer? Pourquoi est-il si étrange? Il a beau être étrange, il sonne relativement bien. Alors on va écouter ce prélude de Tristan, alors dans une version tout à fait étonnante et surprenante. C'est pas du tout la version pour orchestre symphonique que je vais vous passer, c'est une version qui a été retravaillée par le pianiste de jazz Yuri Kane. C'est donc une version un petit peu pour musique de chambre, avec des instruments qu'on ne s'attend pas à trouver dans Wagner. Moi, je trouve beaucoup de charme à cette version du prélude de Tristan, donc revue par Yuri Kane, qu'on écoute tout de suite. C'était donc le prélude de Tristan et Isolde de Wagner. Alors, pas du tout dans la version symphonique, hein, vous vous en êtes bien rendu compte, mais dans une version réarrangée par le pianiste Yuri Kane. C'est avec cette version bizarre du Tristan que se termine ce 228e numéro de Tutti Quanti. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans 15 jours. Et d'ici là, portez-vous bien.
Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie. Et sur les notes, on oubliera le monde qui n'en finit pas de tourner. De marches funèbres et de tombeaux en tombe, on oubliera l'humanité.